Je suis le conseiller, je suis l'ambassadeur. Je vais. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de la Chine. Okay? Je suis un spécialiste de la politique étrangère du Canada. J'ai très rarement travaillé sur la Chine. Et donc, le point de vue que j'apporte ici, en fait, ce qu'on veut que j'apporte ici, c'est plutôt comment on voit les relations entre la Chine et le Canada du point de vue d'Ottawa, du point de vue canadien. Il y a 7 points que je voudrais aborder avec vous. Donc, ça signifie moins de 2 minutes par point. Et simplement pour brosser un tableau un peu des enjeux du point de vue du Canada. D'abord, la première chose qu'il faut dire, M. Bildt l'a bien exprimé, il y a très peu d'éléments communs sur lesquels on peut construire cette relation. Très peu d'éléments historiques, d'abord. On l'a mentionné, le Dr. Bethune, on a mentionné la période Trudeau, on peut mentionner les voyages d'équipe Canada à l'époque de Jean Chrétien. Et somme toute, il y a très peu d'éléments sur lesquels on peut se baser. Il y a d'abord avant tout un élément commercial. M. Bitt, là aussi, c'est les préoccupations commerciales qui ont les nourri les relations entre les deux pays. Et je crois aussi qu'un des problèmes du Canada, c'est que la Chine n'a pas nécessairement besoin du Canada. En fait, il y a un certain nombre d'éléments que le Canada peut apporter, mais ce que le Canada peut mettre dans la corbeille de la mariée est assez limité. Donc, en partant déjà, les bases sur lesquelles on peut construire, contrairement aux relations du Canada avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres régions du monde, les bases sont quand même relativement minces. Deuxième point sur lequel je voudrais aborder avec vous, ce qui va affecter le Canada probablement, ou la politique étrangère canadienne, c'est que nous sommes probablement, on est de très mauvais astrologues, on est très mauvais pour faire des prédictions en sciences politiques, mais quand même on peut dire avec raisonnablement de sûreté qu'on est à la veille d'une situation de transition de puissance dans le système international. On va passer d'un système unipolaire actuellement à un système multipolaire, ou un système bipolaire, pardon, dans lequel la Chine va jouer un rôle très important, soit au plan économique, soit au plan stratégique. Évidemment, c'est une situation que le Canada subit, mais peut difficilement contrôler, encore moins modifier. Le Canada doit simplement s'adapter aux changements dans l'environnement international. Qu'est-ce que ça signifie, donc, cette transition vers la bipolarité? Ça signifie probablement plus de compétition au plan économique, plus de compétition au niveau stratégique, peut-être même une forme de course aux armements auquel le Canada va devoir s'ajuster, va devoir contribuer. Deuxièmement, est-ce que pour un État comme le Canada aussi, on peut poser la question, est-ce que dans un système bipolaire, lorsque deux grandes puissances, est-ce que le Canada peut jouer une grande puissance contre l'autre? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on n'obtient pas ce que l'on veut dans les relations avec les États-Unis, est-ce qu'on peut compenser avec les relations avec la Chine? A priori, en fait, le calcul ne se pose généralement pas dans la mesure où il est clair que le Canada va toujours rester dans le camp occidental, il va toujours rester aligné avec les États-Unis, et il va, si vous voulez, partager le sort des États-Unis, quelle que soit la nature de ce sort. Mais quand même, on peut voir qu'à Ottawa, il y a une tendance à vouloir jouer ce jeu-là. Quand on l'a vu dans le cas du pipeline de Keystone, c'est ça. Okay. Le Canada s'est conduit un peu comme un amoureux est conduit lorsque les États-Unis, le gouvernement américain a refusé de construire le pipeline. Le gouvernement canadien a dit simplement, vous voulez pas? OK, on va le vendre à la Chine. Et donc, au lieu de construire un pipeline nord-sud, on va construire un pipeline vers le Pacifique. Ce genre de calcul-là ne fonctionne pas. Ce n'est pas le genre de chantage auquel un État comme le Canada peut se prêter parce que la relation avec les États-Unis est beaucoup trop importante pour qu'elle soit affectée par des considérations comme ça. Et donc, l'idée de la transition de puissance signifie essentiellement que si les États-Unis entrent dans une période, dans une situation de compétition ou de déclin, le Canada va suivre d'une façon ou d'une autre. Troisième point que je voulais aborder avec vous, l'Eldorado. La Chine a été vue très longtemps par les Canadiens, et toujours vue par les Canadiens comme le marché de demain. Et c'est normal, avec plus d'un milliard de personnes, le marché chinois est absolument extraordinaire pour le Canada. Sauf que ça fait un siècle qu'on essaie de percer ce marché-là, et c'est encore extrêmement difficile. On peut vouloir on l'a mentionné déjà, on voit certains progrès, par exemple en matière de haute technologie, le fait que le Canada, les entreprises canadiennes aient pu vendre des équipements ferroviaires, certains produits de haute technologie, il ne faut pas se leurrer. Ce marché-là demeure pour le Canada un marché de matières premières. Ce que le Canada va vendre à la Chine, c'est d'abord et avant tout des matières premières et des ressources énergétiques. Or, dans le commerce international, être un vendeur de matières premières, ce n'est pas une position confortable. Vous êtes à la merci des fluctuations des prix sur le marché et c'est ce qu'il y a de moins, ce qu'il y a de moins de retombées pour l'État qui vend. Donc, le Canada, à terme, risque d'être dans une situation de perdant dans cette relation. Quatrième point, la question de l'immigration. Il y a assez peu de choses à dire là-dessus, sinon que la Chine représente certainement un des apports les plus intéressants pour la population canadienne. La diaspora chinoise est nombreuse au Canada, elle contribue largement à l'économie et à la vie culturelle canadienne, et cette tendance devrait rester à terme. Donc, il y a ici un avantage assez marqué. Par contre, si on revient au plan aux relations commerciales, et ça c'est mon cinquième point, cette idée du cheval de Troie. Beaucoup de Canadiens réagissent aux investissements chinois, au développement des relations économiques avec la Chine comme étant une menace pour l'économie canadienne. Au sens où on a une impression vague, confuse, mais une espèce de réaction viscérale en disant les investissements chinois au Canada peuvent représenter une menace pour la souveraineté canadienne à moyen ou à long terme. C'est d'où cette réticence qu'ont certains gouvernements à accepter ces investissements chinois. D'une part, on se dit on voit une grande partie des ressources du Canada qui sont extraites et envoyées sur le marché chinois. Et d'autre part, les gouvernements craignent de perdre le contrôle sur des ressources stratégiques. Il y a cette méfiance que l'on ne retrouve pas avec les investisseurs américains, qu'on ne retrouve pas avec les investisseurs européens, qui s'applique pourtant. Ça, il faut voir qu'il y a un réflexe ou une réaction qu'il faut comprendre sur ce plan-là. Et sans doute, un réflexe qui doit être démonté. Sixième point, l'éternelle question des droits de la personne, celle qui pollue les relations entre le Canada et la Chine. C'est une question qui a joué avec beaucoup d'autres États, des relations du Canada avec beaucoup d'autres États, que ce soit l'Union soviétique, que ça a été l'Afrique du Sud, que ça a été plusieurs autres gouvernements. Pour le gouvernement canadien, on a une tendance à vouloir jouer les moralisateurs, c'est-à-dire à expliquer au reste du monde comment ils devraient vivre selon les standards occidentaux. Probablement avec raison dans une mesure où ces standards sont nobles et marquent, je pense, sur un certain plan de progrès. Néanmoins, cette attitude du gouvernement canadien pose une série de problèmes. D'abord, il y a cette apparence du moralisateur qui est généralement assez mal reçue au niveau international. Deuxièmement, il y a la question de la tactique, à savoir est-ce qu'on doit prendre une approche qui est douce à la Jean Chrétien ou à la Pierre Trudeau, de dire on va convaincre à la longue, par les relations qu'on va établir, on va permettre d'accroître les standards sur ce domaine-là. Oui, l'approche plus dure à la Stephen Harper du début des relations, du début du gouvernement Harper, où on avait une approche extrêmement dure à l'égard de la Chine, en disant si vous ne changez pas votre attitude en matière de droits de la personne, nous allons vous condamner sur la scène internationale, nous allons même refuser de faire du commerce avec vous. Donc cette question n'a jamais été tranchée. Mais sous-jacente, le troisième aspect, si vous voulez, de la question des droits de la personne, c'est pourquoi? Pourquoi les Canadiens se donnent-ils ce rôle de moralisateur sur la scène internationale? Et pourquoi cette question pollue-t-elle systématiquement les relations entre le Canada et certains pays comme la Chine? Ce qui m'amène à mon dernier point, celui qui concerne plus particulièrement le gouvernement actuel, le gouvernement d'Ottawa, mais qui marque, à mon sens, une tendance dans la politique canadienne, non seulement dans la politique extérieure, mais dans la politique intérieure aussi, c'est ce virage à droite. Il y a au Canada actuellement un phénomène on voit les valeurs conservatrices qui prennent de plus en plus d'importance et de plus en plus d'influence. Et manifestement, le gouvernement actuellement en poste à Ottawa tend à obéir à certains réflexes qui seraient de nature idéologique, de nature conservatrice. Cette tendance à démoniser la Chine, ce réflexe naturel, ce réflexe incontrôlable de méfiance que peut parfois susciter la relation entre le Canada et la Chine, est largement nourrie par cette idéologie conservatrice. Les conservateurs, et le ministre John Baird là-dessus a été explicite lorsqu'il est allé à quelques reprises, lorsqu'il s'exprime publiquement, John Baird a été explicite, « The evil exists, le mal existe ». Ça a été, il le dit explicitement, il y a cette vision manichéenne du monde dans lequel il y a les bons d'un côté et il y a les mauvais de l'autre. Et les Canadiens, le gouvernement canadien a tendance à placer la Chine dans le rang des compétiteurs ou encore dans le rang de ceux qui peuvent perturber l'ordre international. On retrouve déjà un terrain fertile pour alimenter la méfiance des relations entre les deux pays. Et l'idéologie conservatrice actuellement, à mon sens, augmente ou renforce ce sentiment-là. On le voit par exemple dans l'Arctique. On a tenu ici une conférence sur la Chine et l'Arctique. Et la réaction des auteurs occidentaux aux initiatives chinoises, c'est une réaction de méfiance. De méfiance même viscérale. La Chine a un brise-glace, un seul brise-glace. Et c'est suffisant pour que beaucoup de collègues commencent à dire « Ah, la Chine a des visées territoriales sur l'Arctique. » Ce qui est complètement absurde. Mais pour les Canadiens, ça vous touchez d'abord à une méfiance qui existe déjà, et en plus, vous touchez à quelque chose qui est extrêmement précieux pour eux, l'Arctique. Vous mettez les deux ensemble, vous avez encore une fois une réaction extrêmement viscérale qui va s'exprimer. Et encore, l'attitude du Canada vis-à-vis de la Chine dans l'Arctique va avoir des répercussions concrètes. Le Canada va prendre la direction, la présidence du Conseil de l'Arctique à partir de cet automne, je pense, ou cet hiver. Et une des questions qui va se poser, c'est est-ce que la Chine pourra devenir un observateur permanent au Conseil de l'Arctique? Il est fort possible que si les choses continuent telles qu'elles sont actuellement, le Canada soit celui qui va devoir dire non au gouvernement chinois, avec les conséquences que ça peut avoir. Ceux d'entre vous qui ont entendu le discours du ministre John Baird à l'ONU cette semaine aussi peuvent trouver des éléments qui sont dérangeants. Le ministre John Baird a dit que l'ONU est inefficace, que l'ONU doit cesser de se plaindre et cesser de trouver des excuses et agir. Or, s'il y a un État qui va souvent prôner la modération ou empêcher l'ONU d'agir au Conseil de sécurité, c'est le gouvernement chinois qui va mettre son veto sur certaines initiatives au nom de la défense de la souveraineté nationale. Vous mettez les deux ensemble encore, vous avez un cocktail qui est plutôt indigeste. Et finalement, on a parlé d'environnement, l'ambassadeur Bill a parlé de questions environnementales. À terme, ça pourrait effectivement être un sujet sur lequel les deux États pourraient collaborer. Malheureusement, à Ottawa, actuellement, le mot « protection de l'environnement » n'a pas la faveur du gouvernement en place. C'est-à-dire que les initiatives que prend le gouvernement conservateur actuellement ne sont pas pour nourrir cet espoir que les questions environnementales et les initiatives pour la protection de l'environnement pourraient, à terme, pourraient dans l'immédiat, en tout cas, être une base sur laquelle on pourrait construire des relations.